Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Nous avons laissé Philippe, duc d'Orléans, à la veille de la réunion des États généraux. Louis XVI les a convoqués pour le 1er mai 1789. Pourquoi ? Eh bien parce que les caisses sont vides. Alors on va voir comment on va pouvoir les remplir. Il est, si on peut dire, dirigé par un monsieur que vous connaissez, Coderlos de Laclos. C'est l'auteur des Liaisons dangereuses, mais son titre, c'est secrétaire des commandements de Monseigneur le Duc d'Orléans. Alors, on prépare les États généraux et le Palais Royal, qui est la résidence de Philippe, va devenir un véritable ministère de la propagande pour les idées libérales. Pourquoi donc ? Parce que Laclos, qui est dans la coulisse, va créer littéralement ce qu'on va appeler l'orléanisme. Il pousse le duc d'Orléans à établir des cahiers de doléances. Alors vous savez ce que c'est, hein, ce sont ces cahiers où les électeurs vont consigner tout ce qu'ils réclament et les vœux pour le gouvernement. Alors on devine la tête du gouvernement de Louis XVI lorsqu'il a sous les yeux les cahiers de doléances, et puis à la fin du cahier, qu'est-ce qu'il voit écrit ? D'après les instructions de Monseigneur le Duc d'Orléans. Pas content, hein, Louis XVI. Cette année-là voit un hiver d'une rigueur absolument extrême. La misère est épouvantable et Philippe, qui est de naturel tout à fait généreux, il ouvre sa bourse. Il fait distribuer jusqu'à 1 000 livres de pain par jour. Il ouvre même ses cuisines. Alors sa popularité devient tout à fait considérable. On le surnomme le protecteur du peuple. Lors des élections, alors, il est élu député dans beaucoup d'endroits, y compris Paris. Mais finalement, il choisit celui de Crépy-en-Valois. Aveuglé par la haine qu'il porte au ménage royal, l'esprit un peu borné, Philippe ne voit pas la pente sur laquelle le pousse Laclos. 4 mai 1789, Versailles. 1200 députés arrivent pour les États généraux. Philippe, dernier rang du tiers-état, pas très loin de quelqu'un dont je vous parlerai plus tard, de Mirabeau. Le maître des cérémonies de Louis XVI vient lui dire que sa place n'est pas là, mais à côté des princes du sang. Eh bien, Philippe n'obéit pas et il va rejoindre le groupe de la noblesse. Remarque de Louis XVI. Eh bien, rien n'y fait. Regard absolument assassin de la reine. Pendant les 2 mois qui vont suivre, Philippe a l'attitude que les nobles que l'on dit avancés, c'est-à-dire ceux qui ont des idées libérales. Alors je vais vous en nommer quelques-uns, par exemple Lafayette, Noailles, Clermont-Tonnerre, Montmorency, Lally Tollendal. Pendant tous les débats, Philippe ne parle pas, parce qu'en fait il était plutôt timide quand il est en public. Il semble absolument dépassé par le bruit qu'on fait autour de son nom. Et un jour qu'il est acclamé dans la rue, il passe la tête par la portière de son carrosse et dit « Merci mes amis, point de bruit maintenant, je veux votre bonheur, je vais m'en occuper. » Alors dans le jardin du palais royal, ce ne sont que hurlements et vociférations, par exemple de Camille Desmoulins. Alors le duc, il est quand même un peu effrayé de ce qu'il entend. Il ne songe pas du tout à prendre la tête des émeutiers. C'est ainsi que le dimanche 12 juillet, il est à la pêche. D'ailleurs, il promet d'aller voir le roi pour lui dire combien il est peiné de ce qui se passe. Le 13, il pénètre dans la chambre royale au moment où Louis XVI se lève. Philippe présente la chemise, parle, dit au roi qu'il vient prendre ses ordres. « Mes ordres, répond le roi, j'ai rien à vous dire. Retournez d'où vous êtes venu. » Alors le duc, bien sûr, sont complètement furieux. Et un de ses amis dit qu'elle est, pardon, une de ses amies dit qu'elle est désolée que la cour ne se soit pas plus préoccupée de la puissance qu'avait le duc, et ça l'a blessée absolument cruellement. Alors elle ajoute qu'elle a la certitude qu'en lui montrant plus de considération et de confiance, on aurait pu le détacher de son entourage absolument détestable. 14 juillet 1789. Philippe est chez lui à Monceau. Il reçoit le duc de Biron et le vicomte de Noailles et Madame Elliott. Celle-ci lui conseille de retourner voir le roi. C'est non. Mais le lendemain, affolé par les événements du 14, on se rappelle quand même que le gouverneur de la Bastille a été assassiné, il se rend compte de la gravité de la défaite royale et il va à Versailles. Eh bien, le roi ne le reçoit pas. Et lorsque le duc demande la permission de partir en Angleterre, Louis XVI ne lui répond même pas. Rentré chez lui, il écrit au ministre Breteuil pour lui confirmer sa demande de voyage, au cas où les affaires prendraient un tour un petit peu fâcheux. Eh bien, là aussi, on ne lui répond pas. Un homme qui aurait été un peu plus fin que Louis XVI, il aurait été bien inspiré d'attirer Philippe. Mais là, il se l'est mis vraiment à dos. Hein. Le roi, toujours poussé par la reine, commet la faute de repousser l'aide de quelqu'un d'autre aussi, de Mirabeau. Et Mirabeau, furieux, prophétise « Le roi et la reine périront et la populace battra leurs cadavres. » Il ajoute que si le roi s'enfuyait, le duc d'Orléans pourrait prendre sa place. Et lui-même, gouvernerait. Et il dit que s'il faut un mannequin, autant que ce soit lui qu'un autre. Nuit du 4 août. Philippe est le premier à applaudir son ami Noailles qui propose l'égalité devant l'impôt. Il faut se rappeler quand même que c'est la grande noblesse qui a proposé ça. Non seulement il propose ça, mais il propose aussi l'abolition des droits féodaux, la suppression des corvées et des servitudes. Eh bien, Philippe est le premier à se dépouiller. Quand on le lui fait remarquer, il éclate de rire, il se moque de l'argent. Il ne voit qu'une chose, le roi va être bien ennuyé. Et en effet, Louis XVI déclare qu'il ne consentira jamais à dépouiller son clergé et sa noblesse. Versailles, mardi 6 octobre. La foule est massée, attendant le départ du roi et de la reine pour Paris. Louis XVI s'adresse à un officier municipal en lui disant qu'un grand mouvement comme celui-ci a dû être payé par de l'or, et il pense à la richesse prodigieuse du duc d'Orléans. L'officier lui répond qu'un si grand mouvement ne se soudoie pas. C'est l'opinion qui a entraîné le peuple. Le duc n'est pas derrière tout ça. Lors du procès intenté plus tard, un avocat dira « Je suis persuadé que le prince n'a été que le prête-nom de gens qui voulaient se servir de son crédit pour assurer le succès de leurs intrigues. » Et un jour, Napoléon va demander même à Roderer « Est-ce qu'il y a vraiment eu une faction d'Orléans ?» Et Roderer, qui avait passé la dernière nuit du règne de Louis XVI à ses côtés, répond « Mirabeau m'a toujours dit qu'on avait fait trop d'honneur au duc les 5 et 6 octobre 1789. J'ai été personnellement lié avec le duc d'Orléans et je crois que, s'il y a eu une conspiration à Orléans, il n'en a jamais été et il ne l'a jamais dit. En fait, depuis la convocation des États généraux, il n'est qu'un fantoche dont Laclos tire les ficelles. » Le 7 octobre, lorsque Lafayette lui rapporte les soupçons qui pèsent sur lui, le duc est complètement affolé. Lafayette, cet héroïque étourneau, si on peut dire, l'expression n'est pas de moi, elle est de l'historien André Castelot, a décidé de devenir l'arbitre de la situation. Nous allons faire une première pause musicale. Il dit au duc qu'il doit partir pour l'Angleterre, que le roi lui confierait une ambassade. Alors Philippe accepte. Le soir, ses amis poussent Léo au cri en lui disant qu'on veut simplement se débarrasser de lui. Cependant, le 14 octobre, le duc quitte Paris pour Boulogne. Le 16, il y arrive. On attend la marée. Les Boulonnais ont appris la présence de Philippe et s'imaginent que le duc d'Orléans est exilé par ordre du roi. Il faut montrer ses papiers, on croit que ce sont des faux, et on dépêche des émissaires auprès de l'Assemblée. 4 jours plus tard, Philippe est quand même autorisé à embarquer. Il arrive à Londres, il est reçu par le souverain. À quoi s'occupe-t-il? Eh bien, il écrit à sa fille qu'il s'amuse beaucoup, qu'il n'aspire qu'au bonheur paisible. Il ajoute que s'il pouvait avoir ses enfants près de lui, il serait tout à fait heureux. Il voyage avec Madame de Buffon, sa maîtresse, qui l'a suivie. Et qui est là aussi pour lui souffler des idées? La Clo. Il estime que le premier prince de sang, député aux États généraux, a un autre rôle à jouer que celui de retraité. Il a un plan. Pourquoi le duc d'Orléans ne serait-il pas l'ambassadeur d'une alliance entre l'Angleterre et la France? Alors on écrit à Louis XVI. Louis XVI y fait grise mine. Les envoyés de Philippe lui font remarquer qu'en cas de refus, le duc d'Orléans s'empresserait de revenir à Paris. Alors, vous pensez bien, Louis XVI, qui ne veut pas voir le duc à Paris, il accepte, parce que comme ça, le cousin, il va rester en Angleterre. Malheureusement, le roi va revenir sur sa parole. Pourquoi donc? Parce que l'Angleterre est sur le point de déclarer la guerre à l'Espagne. Et une alliance franco-anglaise serait considérée comme un camouflet pour l'Espagne. Parce qu'en effet, il existe un pacte familial franco-espagnol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le roi d'Espagne, Charles IV, c'est quand même le petit-fils de Louis XIV. On avait choisi l'un des petits-fils de Louis XIV pour devenir roi d'Espagne. C'est donc un pacte de famille. Alors Philippe répond qu'il va revenir en France et reprendre sa place à l'Assemblée. Lafayette essaie de le persuader de rester en Angleterre et va même jusqu'à le menacer. La décision de Philippe est prise, il annonce son départ pour le 6 juillet car il veut être présent à la fête de la Fédération le 1er juillet. Il arrive, le 14 juillet bien sûr, il arrive au Palais Royal dans la nuit du 9 au 10. Il se rend le lendemain à l'Assemblée, puis aux Tuileries. Lafayette a bien travaillé. Les courtisans s'écartent de lui comme s'il était pestiféré. Louis XVI lui tourne le dos. Il se fait même insulter par un des courtisans. La cour le repousse vraiment vers la Révolution. Le précepteur de Philippe a vu juste lorsqu'il a dit « J'ai élevé un prince qui pourrait faire quelque bruit, mais on devra se garder de l'offenser, car il ne pardonne jamais. » Deux solutions s'imposent ici alors. Soit renvoyer Philippe à Londres, soit le reconquérir et s'en faire un allié. Marie-Antoinette choisit la pire, c'est-à-dire vraiment lui tourner le dos. En attendant, voilà Philippe dans les ennuis domestiques. Madame de Genlis, celle qui a élevé ses enfants, a mis dans la tête du jeune duc de Chartres, le futur Louis-Philippe, de s'inscrire aux Jacobins et de se confesser à un prêtre assermenté. Un petit rappel, hein, on a demandé au prêtre de jurer sur la Constitution, et s'ils ne juraient pas, ils étaient poursuivis et même carrément arrêtés et guillotinés. Marie Adélaïde, donc la femme du duc d'Orléans, qui n'a le droit de voir ses enfants que peu, et au moment imposé par Madame de Genlis, elle se révolte. Les disputes sont telles entre les deux époux que Marie Adélaïde obtient le départ de Madame de Genlis. Alors Philippe décide qu'il s'occupera tout seul de l'éducation de ses enfants. Et Marie Adélaïde, sa femme, donc, se retire définitivement chez son père. Alors qui revient ? Madame de Genlis. Marie Adélaïde, elle exige alors une séparation officielle. Les deux époux ne se reverront pas. 21 juin 1791, 7 heures du matin. « Sire, il est l'heure, dit le moine, le valet de chambre de Louis XVI. » Pas de réponse. Le roi est parti. La nouvelle se répand. Philippe est l'un des premiers prévenus. Au soir du 21 juin, la République est dans l'air et Philippe rentre se coucher au palais royal. Pourquoi hésite-t-il à prendre la place qui lui est abandonnée ? Il dira un jour, « Pendant que mes ennemis m'accusaient d'avoir voulu me faire roi, j'aurais volontiers échangé ma position et toute ma fortune contre une propriété en Angleterre. » En attendant, il est admis au club des Jacobins poussé par Laclos. Et les gazettes commencent à soutenir Philippe, puisqu'on n'a plus confiance dans le roi qui s'est sauvé, et vous vous rappelez qu'il a été bien sûr arrêté. On propose ouvertement à Philippe d'être le régent pendant la minorité de Louis XVII. Il refuse, et il le fait paraître ce refus. C'est Madame de Genlis qui a écrit l'article où le prince dit qu'il veut bien servir sa patrie, qu'il renonce à la régence, qu'il veut rester dans la classe des citoyens. Le roi, pas de bon cœur, bien sûr, a accepté la Constitution. Et pour se débarrasser de son cousin, il le nomme amiral de France, mais sans flotte. Eh bien, Philippe, il est enchanté. Le roi accepte de le rencontrer. Ce dernier finit par admettre que beaucoup de mal a été fait en son nom et qu'il est possible qu'il n'y ait pas pris part, autant de part qu'on l'a cru. Cependant, quand Philippe se présente aux Tuileries au 1er janvier, les courtisans ricanent sur son passage, il est même bousculé et il ne parvient pas à voir le roi. Alors il se rend chez la reine. Eh bien, les murmures insultants redoublent, on le pourchasse dans l'escalier. Alors dès ce moment, il jure à la reine et au roi une haine absolument implacable. Stimulé par Marie-Antoinette qui n'a jamais su s'attacher ceux qui lui sont nécessaires, Louis XVI ne rappelle pas à lui son cousin. Philippe alors, puisqu'il est amiral, il s'en va inspecter le port de Lorient. De retour à Paris, il apprend que la guerre est déclarée à l'Autriche. Alors il veut s'engager, mais on lui répond qu'il n'y a aucun commandement de libre. Alors il dit qu'il va servir dans le régiment de son fils. mais Dumouriez, qui est ministre de la guerre, lui conseille de demeurer au palais. Finalement, Louis XVI dit « Eh ben qu'il aille où il voudra ». Après une campagne de 6 semaines, il retourne au palais royal s'occuper de ses affaires, qui sont en piteux état. Ben oui, parce qu'il y a séparation avec sa femme, qui était prodigieusement riche, et puis on a beaucoup puisé dans ses caisses. Et puis sa femme, eh bien non seulement elle est riche, mais elle lui réclame l'énorme dot que le papa a versée. 10 août 1792, le peuple assiège les Tuileries. Philippe reste chez lui. 2 jours plus tard, la famille royale est enfermée dans la tour du Temple.
Thank you.
attentes planent sur Paris. Les prisons sont pleines. Et Danton va organiser le massacre. Septembre, c'est la boucherie qui commence. Les élections pour la convention approchent. Orléans a décidé de s'y présenter. Alors, sous quel nom? Ben, il propose Orléans. Et on le lui refuse. Et on lui dit que ce serait bien que, comme nom de famille, il ait finalement le mot « égalité ». Et que son jardin du Palais Royal s'appellera désormais « Jardin de la Révolution ». À ce moment-là, on sent que Philippe, il n'est capable finalement d'aucun effort. Il est présenté aux élections, persuadé qu'il ne sera pas élu. Eh bien, il l'est. Mardi 11 décembre 1792, la Convention s'apprête à juger le roi. Il paraît, on dirait un vieillard. Il est interrogé pendant 4 heures. Il renie ses signatures, son cachet, il nie même l'évidence, même jusqu'à l'existence de l'armoire de fer où on a retrouvé des documents qui montrent sa trahison vis-à-vis de la France. La séance terminée, le roi retourne au temple. Philippe au palais royal, ou plutôt à la maison Égalité. Son fils est avec lui. Il est troublé à la pensée que son père pourrait participer à l'envoi de Louis XVI à l'échafaud. Et Philippe répond que quand ce sera son tour de voter, il se récusera. Alors son fils, qui maintenant s'appelle duc de Chartres, hein, l'aîné s'appelle duc de Chartres à chaque fois, est soulagé. Le dimanche 16, les Girondins proposent non le procès, mais le bannissement de tous les Bourbons. Pendant la séance, Merlin de Thionville s'écrie « Orléans, partez dès aujourd'hui !» Le désordre éclate, tout le monde vocifère, finalement le décret est voté, tous les Bourbons sont chassés, sauf la famille royale. Pourquoi Philippe ne saisit-il pas cette planche de salut? Où irait-il? Eh bien, il craint qu'en acceptant, on le soupçonne de vouloir s'enfuir. Le 26, il assiste aux plaidoiries des avocats du roi. On vote sur le texte suivant. Louis Capet, ci-devant roi de France, est-il coupable de conspiration contre la liberté et d'attentat à la sûreté générale de l'État. Le 13, le jeune fils de Philippe, Montpensier, implore son père, « Ne condamnez pas le roi !» Réponse de Philippe, « Rassurez-vous, je ne ferai pas ça, je suis incapable d'une telle action. » Il répond à Madame Elliott qu'il n'irait pas à la séance, qu'il lui en donne sa parole. Que sans doute le roi était coupable en manquant à la parole de parole à la nation, mais rien ne pourra le contraindre, moi son parent, rien ne pourra me contraindre, moi son parent, à voter contre lui. Le matin du 15, on vient le chercher de force. Appelé nominalement, c'est par là que j'avais commencé mon récit. Il laisse tomber, oui. Le jugement qui sera rendu, Louis, n'est-ce pas, est-ce que ça sera soumis à la ratification du peuple? Peut-être que là, il aurait été sauvé. Eh bien, ce sera non. Maintenant, quelle peine doit-on infliger à Louis XVI? Au soir du 16, Danton s'exclame « Je demande que la Convention se prononce sur le sort de Louis sans désemparer. » Alors l'appel nominal commence. Tous les représentants de Paris votent pour la mort. Il ne reste plus que Philippe. Il lit un papier qui se termine par « Je vote pour la mort ». Eh bien, dans l'Assemblée, c'est un silence glacial. Et Robespierre murmure « Le malheureux ». Il n'était permis qu'à lui de se récuser. Il n'a pas osé de faire. La lâcheté a ici été la plus forte. Et lorsqu'on fait les comptes, on s'aperçoit que le roi n'est condamné qu'à une voix de majorité. On peut dire que sans la voix de Philippe, Louis XVI échappait à l'échafaud. Le 21 janvier 1793, place de la Révolution, la tête du roi tombe. Du fond de son cabriolet, Philippe vient d'assister à l'exécution de son cousin. Le vide se fait autour de lui. Un complot organisé par Dumouriez pour faire monter sur le trône, éventuellement le fils de Philippe, est découvert. On lit à la Convention une lettre du dit fils contre l'Assemblée. Le duc est livide. En tant que membre, il sera gardé à vue. Un conventionnel lui conseille de demander un décret qui le bannisse de France ainsi que sa famille. Il n'a pas conscience du danger, il rentre chez lui. Son fils, avec Dumouriez, rejoint les Autrichiens. Alors vraiment, là, c'était le comble. Donc, on considère le duc d'Orléans comme étant le père d'un traître qui est passé à l'ennemi, d'un émigré. Donc Philippe, on peut dire, il n'a plus rien à espérer de la Convention. Le 6, la mise en accusation est demandée. On le conduit à la prison de l'abbaye, où il retrouve son fils Beaujolais. Le 8 avril, le conseil exécutif de la Convention désigne un fort de Marseille comme résidence aux Bourbons captifs. On y arrive le 21. 23 octobre, on vient chercher Philippe pour le conduire à Paris, où l'on arrive le 1er novembre. La terreur commence à planer sur Paris. Le mardi 5 à 9 heures, on vient chercher le duc pour un interrogatoire d'identité et lui faire savoir qu'il passera le lendemain au tribunal. L'interrogatoire a lieu. Le président, c'est l'épouvantable, on peut dire le sanguinaire Fouquier-Tinville, accuse Philippe de n'avoir rien ignoré du complot de Dumouriez. À toutes les questions, Philippe répond non. Fouquier requiert alors la peine de mort. Le jury, sous la présidence du ci-devant marquis Antonelle, ex-familier du palais royal, se retire et revient quelques minutes plus tard. Philippe Égalité est condamné à la peine de mort. Le duc déclare « Puisque vous étiez décidé à me faire périr, vous auriez dû au moins chercher des prétextes plus plausibles pour y parvenir. » Un des jurés écrit à son frère « Il fallait qu'il périt. Quand il eût été innocent, si sa mort pouvait être utile, il fallait qu'il fût condamné. Il n'était nullement complice, mais il faut néanmoins le répandre pour faire cesser les calomnies contre-révolutionnaires. » On monte dans la voiture. Le duc a une contenance tout à fait noble et assurée. À ses côtés, l'abbé Lautringer, qui l'a confessé. On passe devant le palais royal. La guillotine a été dressée entre le pont tournant des Tuileries et le piédestal qui portait la statue de Louis XV. Le bourreau lance « Citoyen Égalité, à vous de passer le premier !» On le lit. La planche bascule. C'est fini. L'un des aides saisit la tête par les cheveux et la montre au peuple, qui applaudit longuement. Au revoir à tous.